Chapitre 8. Coup de théâtre sur coup de théâtre. Le même soir, vers 22 h, Chantecoq se trouvait dans son studio en compagnie de Jacques Bellegarde. « Mon cher ami, disait le détective à son gendre, je vous suis très reconnaissant d'être accouru aussi rapidement à mon appel. Ainsi que je viens de vous le raconter, l'affaire Oscarvel se corse d'une façon extraordinaire, et vous voyez que j'avais raison lorsque je vous prédisais que je serais obligé de faire appel à vous. Pour rien au bon, je ne veux mêler, quant à présent du moins, la police officielle à cette histoire. Je ne ferai que lorsque j'aurai les aveux des coupables, pour cela ne saurait tarder. Je ne me dissuade pas que, pour les obtenir, j'aurai à livrer une rude bataille. La princesse Rascolini et surtout son secrétaire sont des adversaires d'une envergure incontestable, décidés à tout, prêts à tous les crimes. Si je n'avais pas eu la prudence de revêtir cette cotte de maille spéciale qui me met en partie du moins à l'abri des balles et des coups de couteau, j'étais un homme mort. Ce mystérieux mutilé m'avait visé en plein cœur. Heureusement qu'il n'a pas eu l'idée de me loger une balle dans la tête et qu'il a trouvé que, placé comme il devait l'être, la poitrine lui offrait une cible beaucoup plus sûre que mon front. Bref, je reconnais très volontiers que j'ai eu beaucoup de chance de sortir indemne de l'aventure. À présent, j'ai l'impression que jamais, peut-être, même lorsque, pendant la guerre, je donnais la chasse aux espions, il y a 2 ans, lorsque je me suis élancé à la poursuite de Belphégor, le fameux fantôme du Louvre, je n'avais connu un aussi grand danger. Mais ce couple sinistre aurait bien tort de se réjouir de la victoire qu'il croit avoir remportée sur moi, victoire à la Pyrrhus, et qui sera suivie pour eux d'une rapide défaite, car ils n'ont réussi qu'à fortifier ma conviction à leur culpabilité. Maintenant que je les tiens, je ne les tiracherai plus, jusqu'au moment où, après leur avoir passé à tous deux les menottes, j'aurai non pas l'honneur, mais le plaisir de les remettre entre les mains de la justice. » Et l'œil brillant, le roi des détectives conclut. « C'est égal, je suis curieux de savoir quel bandit se cache sous ce masque de mutilé. Là, voyez-vous, mon cher Jacques, est la clé de toute l'affaire. Vous ne pensez pas que ce soit Raymond Quérédol ?» exprimait Bellegarde. « Non, bien que je l'ai déclaré à la princesse, à laquelle je voulais tendre un piège, dans lequel d'ailleurs elle s'est empressée de tomber. Mais dès que la mère du disparu m'a mis au courant de tout, j'ai tout de suite été convaincu que Quérédol avait été assassiné. Il suffit d'un instant de réflexion pour s'en convaincre. La princesse, qui, sous ses allures de grande et honnête dame, m'a tout l'air d'être une réincarnation de la fameuse compatriote Lucrèce Borgia, que ses crimes et ses débauches ont à jamais rendu immortelle, a très bien pu avoir un penchant très vif pour un garçon doué de tous les avantages physiques et de toutes les tares morales qui plaisent à ce genre de femme. À l'usage, elle en a eu d'autant plus vite assez qu'il devait lui coûter fort cher, et qu'un autre homme est passé, l'homme au masque, qu'il a emballé à fond. Oh, celui-là, c'est un as dans sa catégorie. Et tous deux ont décidé de se débarrasser du gêneur qu'était Raymond Quérédol. C'est clair comme de l'eau de roche. En effet, approuvait Bellegarde. Mais, par exemple, ce que je ne saisis pas, c'est la raison pour laquelle la princesse et son énigmatique associé auraient assassiné le comte de Roscanvel. Mais moi non plus, scandait le grand cigare. Et pourtant, j'ai rarement réussi à accumuler autant de charges sur des accusés. S'il n'était pas coupable, pourquoi la princesse m'aurait-elle écrit cette lettre de menace ? Êtes-vous bien sûr que ce soit elle? Bon, ne me contentant pas là de mes seules lumières, j'ai porté les différents échantillons de son écriture qui sont dans ma possession à mon ami Delphiane, le premier expert de Paris en cette matière. Il m'a déclaré que je ne m'étais pas trompé et que les écritures des trois messages que je lui ai soumis étaient de la même personne. Et, s'animant un peu, le roi des détectives poursuivait. Mais ce Marco et cette Suzanne. Oui, ce maître d'hôtel et cette femme de chambre, qui après avoir été au service des Rascolini, s'en vont comme par hasard chez les Roscanvel, et toujours comme par hasard, retrouvent leur place chez leurs anciens maîtres dès qu'ils ont fourni les renseignements nécessaires pour faire rejeter sur un innocent la responsabilité d'un crime commis par un autre. Oui, tout ceci est fort troublant, appréciait Bellegarde, et dénote même une maladresse étonnante. De la part de professionnels, achevait Chantecoq. Mais la princesse et son complice ne sont pas des professionnels. Ils ont évidemment le crime dans la peau, ils le suent par tous les pores. Ils n'hésitent pas à accumuler les cadavres autour d'eux, car je parierais bien 1 million qu'ils ont hâté la mort du prince afin de reconquérir plus vite leur liberté. Et puis, argument suprême, argument massue, s'ils n'avaient pas tout à redouter de ma part d'abord et de celle de la justice ensuite, pourquoi l'homme masqué aurait-il tiré sur moi, juste au moment où, sous la menace de mon Browning, la princesse Raskolnikov, désarmée, vaincue, prête aux aveux, s'apprêtait à me suivre chez le commissaire de police? Mais votre raisonnement est d'une logique absolue, déclarait Bellegarde. Et Chantecoq martelait. Donc, le seul point obscur en ce qui concerne l'affaire Roscanvel est le mobile du crime. D'un moment, je me suis dit, quoique sa femme prétende le contraire, le contremaire a peut-être été l'amant de la princesse et l'homme masqué aura voulu s'en débarrasser, ainsi que de Kerenot. Non, mais cela ne tient pas debout. C'est beaucoup trop compliqué ou beaucoup trop simple. Et puis mon flair me le fait pressentir. Non, il y a autre chose. Mais quoi? Quoi? Jamais encore je me suis heurté le front au mur d'une pareille énigme. C'est en vendre son âme au diable. Se calmant subitement, Chantecoq continuait. Bon, inutile de s'énerver, cela n'avancerait pas les choses au contraire. D'autant plus que tout va bien. Bellegarde judicieusement observait. Ben, en effet, la princesse et l'autre ne peuvent pas en ce moment quitter Paris sans éveiller d'autres soupçons que les vôtres. Avant de prendre la fille de l'air, ce qui doit bigrement entrer dans leur plan, ils sont forcés d'attendre au moins que les funérailles du prince aient été célébrées. Oh, déclarait le roi des détectives. Avec des oiseaux de cette espèce, il faut s'attendre à tout. Ils pourraient fort bien, au contraire, déployer leurs ailes avant que cet infortuné Rascolini reposât dans le caveau de ses ancêtres. Aussi ai-je pris mes précautions et chargé Météore et Gautret d'exercer autour d'eux une surveillance de tous les instants. Voilà même pourquoi, mon cher Jacques, je vous ai demandé de venir me donner un coup de main. Et avec joie. Dans ce genre d'expédition, je n'emploie jamais mes agents ordinaires. Je ne fais appel qu'aux intimes, c'est-à-dire à ceux dont je suis sûr, autant que de moi-même. Vous pouvez entièrement compter sur moi. Et à qui le dites-vous? Ne vous ai-je pas déjà vu à l'œuvre? Oh oui, Belphégor, que de souvenirs! Sans compter, souriait le limier, qu'ainsi que dans l'affaire du fantôme du Louvre, je vais vous fournir l'occasion d'un reportage sensationnel pour votre journal. Ah oui, il sera dit que je serai éternellement votre obligé. Dites plutôt mon collaborateur, mon ami, mon fils. Toujours, mais patron, vous permettez que je vous appelle patron. Bon, ça me va très bien. Donc, patron, donnez-moi vos directives, je ne vous cacherai pas que je les attends avec impatience. Bien, il s'agit d'aller relever ce brave Gautret et cet excellent météore, qui depuis cet après-midi monte une discrète faction autour de l'hôtel de la Chaussée de la Muette. Tous deux sont camouflés en agents. Nous allons en faire autant et adosser à notre tour l'uniforme de gardien de la paix. C'est pas très régulier, mais comme nous nous faisons en ce moment les auxiliaires de la police, celle-ci nous en voudra pas si, pour lui donner un sérieux coup de main et pour réparer l'erreur commise par l'un de ses représentants, nous lui empruntons en tout bien tout honneur quelques-uns de ses accessoires. Tous deux passèrent dans le laboratoire. Une demi-heure après, ils en ressortaient entièrement transformés, tout ce qu'il y a de plus nature. L'œil le mieux exercé eût été incapable de découvrir en l'un le premier limier de son temps et en l'autre le premier reporter de son époque. Avenue des Ternes, ils prirent un taxi. Ils se firent descendre à l'entrée de la Chaussée de la Muette et s'en firent rejoindre à pied Gautret et Météore, qui, non moins nature qu'eux, montaient imperturbablement la garde en faisant les 100 pas devant la demeure de l'Ascolini, sur le trottoir d'en face, de telle sorte qu'ils avaient l'air de surveiller non pas l'hôtel de la princesse, mais une autre propriété privée, habitée par un homme politique considérable, qui était précisément l'objet de violentes attaques de la part des communistes. Chantecoq et Bellegarde d'une part, Météore et Gautret de l'autre, s'adressèrent à un cordial et confraternel salut militaire. Puis, comme s'ils se repassaient d'une consigne, ils échangèrent quelques paroles à voix basse. « Rien de nouveau ?» interrogeait Chantecoq. « Non, patron, répliquait Météore. « Les oiseaux sont toujours là ?»« Oui, j'en réponds, affirmait Gautret. D'ici, on peut très bien les voir, au premier étage où la fenêtre est allumée. Le limier leva les yeux dans cette direction. Derrière des rideaux de tulle, il aperçut en effet les silhouettes de la belle Impéria et de son secrétaire. Parfait, apprécia-t-il. Puis il questionna. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Beaucoup d'allées et venues, ripostait Météore. Les pompes funèbres, des fournisseurs, des gens très chics qui venaient déposer leurs cartes ou signer sur un registre, mais non, rien de particulier. Je vous remercie, mes amis. Allez vous reposer tous les deux, il est minuit. Revenez vers 6 heures du matin. Bonsoir, patron. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonne nuit, messieurs. Bon, je crois que celle-ci sera plutôt calme, fit le journaliste. On ne sait jamais, ponctua le détective. Gautret et Météore allaient s'éloigner, mais Chantecoq les retint. Vous êtes bien sûr, fit-il, que l'hôtel de l'Ascolini n'a d'issue que sur la Chaussée de la Muette? Oui, patron, affirmait Météore. Nous avons, monsieur Gautret et moi, procédé à toutes les vérifications nécessaires. Bon, bien merci, à demain matin, 6 heures. Avant, si vous voulez, patron. Non, non, c'est inutile. Les deux collaborateurs de Chantecoq s'éloignèrent. Le roi des détectives dirigea de nouveau son regard vers les fenêtres éclairées. Les silhouettes de la princesse et de l'homme masqué avaient disparu. Eux aussi vont se coucher, observa Bellegarde. Bon, j'en doute, poursuivit Chantecoq. J'ai même l'idée que la nuit ne se passera pas sans incident. Et avisant une auto carrossée en voiture de course qui stationnait à 3 numéros de là, il murmura: Voilà un carrosse qui ne me dit rien, qui vaille. Je vais y jeter un coup d'œil. Restez là et n'intervenez que si je vous appelle. D'un pas un peu nonchalant, le bras dissimulé sous sa pèlerine, Chantecoq s'approcha de l'auto. C'était une voiture au moteur puissant et portant la marque d'une firme qui avait triomphé récemment sur une course internationale. Le détective remarqua que les quatre pneus ainsi que celui dit de secours étaient entièrement neufs. Comme il ne voyait extérieurement du moins aucune trace de bagage, il voulut se pencher à l'intérieur afin de mieux se rendre compte et surtout de déchiffrer le nom du propriétaire. Mais bondissant sur le siège, un chien berger allemand, qui se tenait tapi au fond de l'auto, commença à faire entendre des grognements si nettement avertisseurs que Chantecoq ne crut pas devoir prolonger ses investigations. Et revenant vers Bellegarde, il lui dit: Me trompez pas, voilà une auto que nous ferons bien de surveiller attentivement, car je ne serais pas surpris qu'elle fût destinée à emmener cette nuit la princesse et son secrétaire. Et d'un air mystérieux, il ajouta: Cette fois, ils ne m'échapperont pas, car ils vont tomber sur un de ces becs de gaz. Oui, parfaitement, je dis de gaz, auxquels ils ne s'attendent guère. Chantecoq ne se trompait pas. Un coup de théâtre était sur le point de se produire, mais un coup de théâtre qu'il n'avait pas prévu et qui ressemblait singulièrement à une tuile que ses adversaires lui auraient lancée sur la tête de leur fenêtre au moment où il ne s'y attendait pas. En effet, il n'y avait pas 5 minutes que Chantecoq avait rejoint Bellegarde, que ceux-ci voyaient s'avancer vers eux un monsieur d'une trentaine d'années que suivaient de très près 2 agents de en tenue. Grommela le détective. Ça sent mauvais. Le monsieur, un grand et solide gaillard, a l'air décidé de quelqu'un auquel on n'en remontre pas, s'enfuit directement vers le détective privé et son gendre, et sans la moindre formule de politesse, il leur ordonna, sur un ton qui n'admettait pas de réplique: Suivez-moi tous deux, inutile de chercher à vous esquiver ou à vous défendre. Je suis monsieur Méjasson, le secrétaire du commissaire de police du quartier. Je vous tiens, je ne vous lâcherai pas. Chantecloque ne pensait nullement à s'enfuir, mais quand bien même aurait-il eu cette intention, qu'il lui était matériellement impossible de la réaliser. 2 agents cyclistes qui venaient mettre pied à terre arrivaient en renfort. Et tout en parlant intérieurement, il emboîta le pas au secrétaire, imité par Bellegarde, qui, en présence de cet avatar inattendu, était bien résolu à calquer entièrement son attitude sur celle de son beau-père. Durant le trajet, pas une parole ne fut échangée. Chantecoq songeait: Ben, nous avons été repérés et dénoncés. Par qui? Mais parbleu, par ceux que je pourchasse et qui auront remarqué notre présence. C'est donc que cette nuit, ils ont bien l'intention de partir dans cette auto qui doit vous faire du, je sais pas, du 120 à l'heure, peut-être même davantage. Heureusement que j'ai copié son numéro, 5748ID. C'est toujours ça. C'est bien qu'ils sont capables de changer en route. C'est tout de même enrageant de se dire que cette gredine et ce coquin vont nous brûler la politesse au moment où j'allais leur jouer un si joli tour de ma façon, ainsi qu'à leur chien policier, qui m'a tout l'air de défendre les intérêts de ses patrons avec un zèle aussi aveugle que redoutable. Oh, les bandits, je ne croyais pas qu'ils me donneraient tant de coton, ni surtout qu'il se paierait ainsi ma tête. C'est tout de même un peu fort. Dans sa crainte que la princesse et l'homme masqué allaient leur échapper, il fut sur le point de tout dire au secrétaire. Mais il réfléchit. Bon, cela n'arrangerait en rien les choses. Du fait d'avoir endossé ses uniformes d'agent, Bellegarde et moi, nous avons commis un délit qui justifie notre arrestation. Et si même je révélais à ce digne représentant de la loi que je suis le détective Shadcock et que mon compagnon n'est autre que Jacques Bellegarde, le reporter bien connu du Petit Parisien, ce fonctionnaire qui m'a l'air de ne pas badiner avec son devoir et d'être fort conscient de sa responsabilité, ne prendrait certainement que pas sur lui de décider de nous remettre immédiatement en liberté, même provisoire. Il voudrait en référer à son supérieur, hiérarchique, qui lui-même, etc., etc. Cette balade au poste, oh, est absolument inévitable. Mais c'est tout de même vexant de se dire que cette Italienne et son homme masqué vont en profiter pour s'éclipser à l'anglaise. En arrivant au commissariat, le secrétaire fit entrer les deux délinquants dans son bureau, ainsi que les deux agents qui l'accompagnaient. Les deux agents cyclistes qui s'étaient contentés de former escorte demeurèrent au poste qui se trouvait au rez-de-chaussée. Le secrétaire, s'installant devant son bureau, attaquait. Vos noms, vos adresses, vos papiers. Avant tout, monsieur le secrétaire, répliquait Chantecoq d'un ton plein de feinte humilité, nous vous serions bien reconnaissants de nous faire savoir de quoi mon collègue et moi nous sommes accusés. Mais vous le savez aussi bien que moi, scandait monsieur Méjasson en haussant les épaules. Je suppose, monsieur le secrétaire, que vous ne nous prenez pas pour des malfaiteurs. C'est mon affaire. En ce cas, vous vous tromperiez, posait tranquillement le roi des détectives. Car si, comme vous semblez le croire, nous étions des bandits, au lieu de vous suivre bien naturellement et gentiment, bien docilement, ainsi que nous l'avons fait, nous aurions cherché par tous les moyens à nous soustraire à votre poursuite, et qui sait si nous n'y serions point parvenus. En attendant, ordonnait monsieur Méjasson, remettez-moi les deux revolvers qui sont dans ces étuis. Mais ces étuis sont vides, déclarait Chantecoq. Il ouvrit le sien, Bellegarde l'imita. Le limier avait dit vrai. Chantecoq, qui paraissait avoir pris son parti de la mésaventure, reprenait en souriant. Oh, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas armés, et même jusqu'aux dents. À peine avait-il prononcé ces mots que les deux agents d'un bond s'élançaient l'un vers Chantecoq et l'autre vers Bellegarde. Mais d'un geste cordial, le roi des détectives les rassurait. Oh, ne vous donnez pas la peine de nous fouiller, fit-il. Nous n'avons nullement l'intention de nous servir des différents joujoux défensifs et offensifs que nous transportons sur nos personnes. Monsieur Béjasson, persuadé que le faux agent se moquait de lui, commanda d'une voix rude. En attendant, faites-moi le plaisir d'enlever tous deux vos pèlerines. Très volontiers, accordait Chantecoq. J'allais même, monsieur le secrétaire, vous en demander la permission, car il fait très chaud dans votre bureau. Simultanément, le grand limier et le journaliste se débarrassèrent de leurs pèlerines. Apercevant une boîte rectangulaire de la dimension et de la forme d'une boîte de conserve que Chantecloque tenait sous son bras, Méjasson s'écriait « Qu'est-ce que c'est que ça? » L'agent, qui se tenait auprès du grand détective, n'attendit pas que celui-ci eût formulé une réponse, et brusquement, il voulut lui arracher cet objet qui lui semblait au moins aussi suspect qu'à son supérieur. Chantecloque le saisit par le poignet, et sans la moindre brutalité, mais avec une force qui défiait toute résistance, l'immobilisa instantanément. Et d'une voix bienveillante, mais nuancée cependant d'un peu d'ironie, il fit « Bon, ne touchez pas à ça, mon ami, car il y a là-dedans un diable. qui vous sauterait à la figure. Non, mais voilà, c'est, coupait le secrétaire en frappant un coup de poing sur son bureau. Inutile de jouer plus longtemps la comédie. Cette boîte contient une bombe à retardement et vous êtes deux communistes qui vous disposiez à faire sauter la maison du sénateur Migoulot. Convaincu que, grâce à cette virulente apostrophe, il avait réussi à intimider les deux présumés conspirateurs, il ajouta « Maintenant, êtes-vous disposé à entrer dans la voie des aveux ?»« Oui, monsieur le secrétaire, » déclarait Chantecoq, « mais à une condition. »« Comment, vous posez des conditions ?»« Oui, monsieur le secrétaire. »« Vous en avez un aplomb. »« Permettez. » Mais je ne permets rien. Un mot, disait Chantecoq, sur un ton de conciliation déférente. Je voulais simplement vous dire que nous sommes prêts, mon ami et moi, à vous raconter toute la vérité, mais auparavant et simplement, à titre de curiosité, nous serions très désireux de savoir comment vous avez appris que nous nous trouvions aux chaussées de la Muette, près de l'immeuble où demeure ce digne représentant du peuple que, si affreusement et offusquement, vous protégez. « Je n'ai pas d'explication à vous donner, » répliquait Béjasson avec mauvaise humeur. « Alors, monsieur le secrétaire, j'ai le regret de vous déclarer que nous resterons bouche close et que nous ne consentirons à nous départir de notre silence qu'en présence de monsieur le préfet de police en personne. » Méjasson se gratta l'oreille. Il était en effet fort embarrassé. Certes, l'arrestation des deux pseudo-communistes était un succès à son actif, mais s'il ne réussissait pas à les faire parler, ce succès devenait singulièrement compromis. Il fallait donc à tout prix obtenir leurs aveux. Jugeant que la manière forte serait inutile et peut-être même dangereuse, il se dit « Essayons plutôt la persuasion. C'est encore le meilleur moyen de leur tirer les vers du nez. » Et tout en gardant un ton bourru et un air menaçant, il reprit « Ce qui m'étonne, c'est qu'après vous êtes laissé conduire ici avec tant de docilité, oui, vous adoptiez maintenant, que vous voilà dans mon bureau, une attitude si différente. Après tout, puisque vous y tenez, je ne vois pas pourquoi je me refuserai à vous donner satisfaction. Oui, c'est par un coup de téléphone, anonyme, bien entendu, que j'étais averti que deux individus déguisés en agents stationnaient devant la maison de M. Micoulot. J'ai d'abord envoyé un inspecteur en civil qui est revenu me déclarant que ces deux agents, bien que portant le numéro de l'arrondissement, lui étaient entièrement inconnus. C'est alors que je me suis décidé à me rendre moi-même sur les lieux. Êtes-vous content ? Enchanté, monsieur le secrétaire, enchanté ! S'écriait le roi des détectives, tandis que Bellegarde inclinait la tête en signe d'acquiescement. Alors, poursuivait monsieur Méjasson, je suppose que vous n'allez plus refuser de répondre à mes questions. Nous n'avons qu'une parole, monsieur le secrétaire. Nous sommes de très honnêtes gens. Votre nom ?
Chantecoq.
Hein ?
Oui, Chantecoq.
Le roi des détectives ?
Oui, en chair et en os, comme on dit au cinéma.
Mais quelle est cette plaisanterie ? Martelait Méjasson.
Je parle très sérieusement, déclarait le limier, la preuve. Arrachant la moustache qui s'était collée sous le nez, puis en levant son képi, il dit au secrétaire qui le contemplait avec effarement « En doutez-vous à présent ?» Et désignant son gendre qui s'était livré à la même opération que lui, il ajouta « Et voici M. Jacques Bellegarde, reporter au Petit Parisien. » Mais Jasson et ses deux agents étaient littéralement médusés. La physionomie de Chantecoq, en effet, était beaucoup trop connue de tous pour qu'ils ne fussent pas absolument certains qu'ils se trouvaient en présence de celui qui passait pour le champion mondial des détectives. C'était bien lui, avec son profil de médaille, son regard à la fois profond et pénétrant, son sourire loyal, affable, bien qu'un peu ironique. Désarçonné, mes jasons balbutiaient. Oh, par exemple, jamais elle me serait attendue. Le prestige de Chantecoq était tel, aussi bien dans les milieux de la police officielle que dans le grand public, que le secrétaire ne savait plus quoi dire, ni même quoi penser. Enfin, il finit par balbutier. « Monsieur Chantecoq, pourquoi ne vous êtes-vous pas fait connaître dès que je vous ai arrêté ?»« Bien d'abord parce que vous ne m'eussiez peut-être pas cru. Et quoi qu'il m'en coûtât d'abandonner un poste d'observation qui offrait pour moi un très puissant intérêt, j'ai préféré que cette explication, devenue inévitable, eût lieu non pas au dehors, mais dans votre bureau. » Le secrétaire, visiblement perplexe, se taisait. Devinant ce qui se passait en lui, Chantecoq reprenait. « Bon, maintenant, il me reste à vous présenter toutes mes excuses de vous avoir placé, oh, bien malgré moi, dans une situation plutôt délicate. Vous êtes en ce moment partagé entre le désir de m'être agréable en me relâchant, ainsi que M. Bellegarde, et la crainte très légitime des responsabilités. » Mais Jason avouait. « Le fait est que je suis très embarrassé. Je viens d'être nommé il y a quelques jours à ce poste. Mon commissaire, M. Petitrat, vous le connaissez peut-être, M. Chantecoq. Oh, je le connais même très bien. Je sais qu'il n'est pas toujours commode. Bien, c'est ce que j'allais vous dire, M. Chantecoq. J'ajouterais même qu'il m'a un peu dans le nez. Tiens, pourquoi? Vous avez pourtant l'air d'un brave garçon. » « Je suis en effet, monsieur Chantecoq, seulement. Je suis auvergnat. Et alors ?»« Eh bien, pour monsieur Petitrat, c'est un vice rédhibitoire, une tare indélébile. »« Je ne comprends pas. Monsieur Petitrat est parisien et n'aime que les parisiens. En dehors d'eux, rien n'existe pour lui. Et il a une telle horreur des provinciaux que, pour ne pas les voir, il ne s'absente jamais. » Et passe toutes ses vacances sans congé chez son frère, qui est marchand de vin à Bercy. C'est comme ses agents. En voici deux qui sont d'excellents collaborateurs, très énergiques et d'une bravoure à toute épreuve. Eh bien, M. Petitrat, on ne peut pas les encaisser, parce que l'un Rinaldi est corse et que l'autre Badelec est breton. Diable, diable, plaisantait Chantecoq. Oh, ça va très mal aller pour nous. Puisque moi, je suis originaire du Loiret et que mon gendre est né au Havre. N'importe, comme je m'en voudrais, cher monsieur Méasson, de vous causer le moindre ennui, et comme d'autre part, je voudrais bien récupérer ma liberté dans le plus bref délai, je vous serais très obligé, si vous vouliez bien, demander des instructions à votre chef. C'est qu'il assiste ce soir au banquet de la société Paris aux Parisiens, dont il est vice-président. Mais il est près de minuit, le banquet doit être terminé. Oui, mais après le banquet, il y a une partie de concert à laquelle prend part M. Petitrat. Oh, il est donc musicien, chansonnier, humoriste. Oh, ça, j'ignorais. Mais j'espère bien qu'il ne va pas tarder, car avant de rentrer chez lui, il vient toujours faire un petit tour au commissariat. Un bruit de pas retentissait dans l'escalier qui donnait accès au premier étage. Mais Jason ne s'était pas trompé. C'était bien M. Petitrat qui, en habit noir, gilet blanc et coiffé d'un chapeau claque, pénétrait en coup de vent dans le bureau de son secrétaire. « Oh ça !» s'écria-t-il, « mais que signifie cette réunion ? Est-ce que par hasard, M. Jason, vous organiseriez ici un soviet d'agents ? « Vous ne me reconnaissez donc pas ?» s'écriait Chantecoq en se campant devant le magistrat. « Mais attendez... » M. Petitrat le fixa en écarquillant ses yeux déjà ronds. Puis il fit avec hésitation. « On dirait... »« Mais Chantecoq !» s'écriait le détective. Mi-figue, mi-raisin, le commissaire exprimait. « Oh, mais j'ignorais que vous eussiez repris du service à la préfecture. »« Toi, mon gaillard, » se dit le grand limier, « si tu veux faire le malin, tu vas trouver quelqu'un pour te répondre. » Oh, pour un soir seulement, fit-il à haute voix, ainsi que mon gendre que je vous présente. Monsieur Pétira répondit à peine au salut déférent que Bellegarde lui adressait, et le visage renfrogné, l'air nettement hostile, il reprit. Mais que signifie cette plaisanterie? Chantecoq répliquait. Mon cher commissaire, vous avez peut-être appris que, contrairement aux principes qui régissent la police moderne, j'ai toujours conservé l'habitude, lorsque j'avais une piste importante, à suivre et surtout à faire un gibier facile à effaroucher, d'appuyer le vieux système cher à Vidocq, notre modèle à tous, c'est-à-dire le camouflage. Eh bien, ce soir, ayant à remplir une mission très délicate, très difficile même, pour laquelle j'avais prié M. Bellegarde de me prêter son concours, j'ai décidé que nous traversions en nageant, uniquement parce que, dans le cas présent, c'était à mon avis le plus efficace et le plus sûr des travestissements dont nous disposions. Je me suis trompé, je le reconnais, puisque nous avons été très rapidement repérés et que monsieur votre secrétaire, alerté par un coup de téléphone, est venu nous arrêter avec une dextérité que j'ai le devoir de vous signaler. Les sourcils froncés, l'air important, monsieur Pétira, qui avait déposé son couvre-chef sur la table de son secrétaire, reprenait en lissant ses cheveux qu'il avait abondants et bouclés. Monsieur Chantecoq, je n'ai pas besoin de vous faire observer que vous êtes mis dans un très mauvais cas. Le limier ripostait. En droit, peut-être, mais en fait, je ne le pense pas. Le commissaire, qui n'était pas bon enfant, scandait avec importance. Si sincère soit mon admiration pour votre talent, monsieur Chantecoq, je me vois obligé de vous dresser procès-verbal, ainsi qu'à monsieur Bellegarde, pour port illégal d'uniforme et usurpation de fonction, et sans doute aussi de nous maintenir en état d'arrestation, insinuait le détective. Je le devrais, déclarait M. Pétira, mais en raison de votre personnalité et de celle de monsieur votre gendre, je consens à vous épargner cette mesure. Vous êtes vraiment trop aimable, s'écriait Chantecoq d'un ton plutôt gouailleur. Mais à une condition, imposait le magistrat, c'est que vous allez quitter immédiatement cet uniforme. Mais mon cher commissaire, protestait le limier, vous n'allez tout de même pas nous forcer à rentrer chez nous en caleçon. Monsieur Pétira, qui n'était pas fâché de brimer Chantecoq, car il nourrissait une animosité toute particulière contre ceux qui travaillaient en marge de la police, reprenait. Vous n'avez qu'à téléphoner chez vous qu'on vous apporte des vêtements de rechange. Cela va demander bien du temps, mon cher commissaire, objectait le grand limier. Et je vous assure que je n'en ai pas à revendre. J'en ai même beaucoup perdu. Et je crains fort que les deux coquins de vaste envergure que je filais n'en aient profité pour prendre le large. Les deux coquins de vaste envergure, répétait M. Pétira avec mauvaise humeur. Mais cela me regarde. Plutôt que vous, mon cher monsieur Chantecoq. C'est impossible, monsieur le commissaire. Et c'est même certain. Aussi avais-je l'intention, dès que je les aurais tenus à mon pouvoir, de vous les amener tous les deux. Mais maintenant, cela va devenir bien difficile, surtout si, comme je le prévois, ils ont joué la fille de l'air. Ce sont des voleurs ? Interrogeait le magistrat. Non, des assassins. Vous lui plaisantez, monsieur Bétira. Vous me donnez la chair de poule. Monsieur le commissaire, vous avez tort de prendre cette histoire à la légère. Mais pourquoi n'en ai-je pas été officiellement saisi? Faites demander à monsieur le directeur de la police judiciaire. Que me dira-t-il? Il vous dira que, conformément au rapport de l'inspecteur Ménardier, qui a suivi une autre piste, il était impossible de soupçonner les véritables coupables d'un et même de plusieurs crimes qui, j'ai le droit de vous l'affirmer, sans mon intervention, risquait fort de n'être jamais démasqué. Et vous les connaissez ?
Oui, je les connais.
Vous en êtes sûr ?
Absolument sûr.
Vous avez des preuves ?
J'en ai.
Leur nom ?
Oh, monsieur le commissaire, attendez que je les ai bouclés.
Mais non, j'ai le droit d'exiger.
Non, monsieur le commissaire.
Pardon, veuillez m'écouter.
Mais monsieur Pétirat, très énervé, s'écriait.
Oui, je comprends votre tactique. Vous voulez vous réserver pour vous tout seul la gloire d'une arrestation sensationnelle.
Finement, le roi des détectives observait.
Mais quand on a tiré les marrons du feu, il est tout naturel qu'on les croque.
Vous refusez de parler ?
Non.
Mais avant de vous désigner mes oiseaux, je voudrais être sûr qu'ils ne sont pas envolés.
Et s'ils se sont envolés ?
Mais je ne veux pas être privé du plaisir de les rattraper.
Non, question d'intérêt, non, ma foi, non. D'amour propre, oh, plutôt, oui.
Alors, monsieur Shadcock, par amour propre, vous refusez d'être l'auxiliaire de la police ?
Mais pas du tout, protestait le limier.
Depuis que je travaille à mon compte, je n'ai pas cessé un seul instant d'être son collaborateur, son associé de tous les instants. Et s'il a parfois mis des bâtons dans les roues de l'autre, ce n'est pas moi, je vous l'assure. Vous ne pouvez tout de même pas me brimer d'avoir refusé là où Ménardier a échoué.
Mais je vous blâme de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, s'énervait de plus en plus le commissaire.
Shadcock, dont le calme contrastait avec l'agitation de ce dernier, déclarait
« Allez, nous n'allons pas recommencer cette vieille querelle entre la police officielle et la police privée. Nul plus que moi n'est respectueux de cette grande institution dont j'ai longtemps fait partie et qui a pour mission la sauvegarde de la société. Je sais tous les immenses services qu'elle a rendus à notre pays, qu'elle lui rend encore et qu'elle lui rendra de mieux en mieux sous l'active et intelligente impulsion de ceux qui la dirigent. Je rends hommage à ces actes d'héroïsme désintéressé, de dévouement, trop souvent obscur, d'habileté, d'initiative, de ténacité et d'intelligence dont s'honore quotidiennement, du plus grand au plus petit, ceux qui servent dans ses rangs. Et vous allez voir, monsieur le commissaire, si je vous fais la part belle. J'ai un indicible mépris pour toutes ces officines louches telles qu'il en existe trop chez nous et que sous les vocables trompeurs, sécurité des familles, renseignements confidentiels, etc., etc., ne sont parfois que de véritables attrape-gogo et quelquefois pire. Ainsi comprise, la police privée serait une chose odieuse à un danger public. Qu'on la supprime, je serais le premier à crier « bravo !» Et je me demande même pourquoi, en haut lieu, on attend si longtemps pour prendre une mesure de salubrité qui s'impose tout autant que le balayage de nos rues et l'enlèvement des ordures. Mais que l'on réserve toutes ces foudres à ceux qui, ainsi que votre serviteur, n'ont qu'un but de compléter l'œuvre des officiels, s'associer aux besoins à ceux-ci dans les tâches pour lesquelles il leur manque souvent le temps et les moyens matériels dont ils auraient besoin, mais je trouve cela une lamentable erreur, une suprême injustice. Est-ce que la question d'amour propre devrait exister lorsque la défense de la société est en jeu ? Est-ce que nous ne devrions pas, au contraire, policiers officiels et détectives privés, entretenir les uns avec les autres un courant de sympathie, de confraternité, qui ne pourrait qu'établir entre nous un lien d'action, une base de collaboration officielle, et provoquer d'excellents résultats ? Est-ce que nous ne devrions pas nous compléter les uns les autres ? Votre besogne à vous, si écrasante, si formidable, en serait considérablement allégée. Et nous n'aurions plus à redouter, comme hélas, je l'ai vu tant de fois, que l'intrusion de certains des vôtres, péchant par manque de clairvoyance, excès de zèle et disons-le aussi parfois par jalousie professionnelle, ne nous démolisse tout un moment décisif. Or, qu'est-ce qui profite de ces rivalités, de ces dissensions? Ce sont les criminels. Voilà pourquoi, autant je suis l'ennemi déclaré de ces viles collusions qui ne reposent que sur un maigre et méprisable intérêt, autant je suis partisan d'une collaboration loyale et chaque fois que la nécessité s'en fera sentir. Mais je bavarde et l'heure tourne. Je m'aperçois, monsieur le commissaire, que je vais vous faire coucher très tard et puisque vous en avez décidé ainsi, permettez-moi de téléphoner à mon valet de chambre, de m'apporter les vêtements civils dont nous avons besoin, mon gendre et moi, pour regagner décemment nos domiciles. Faites, monsieur Chantecoq, autorisait monsieur Bétirat, que l'éloquente apostrophe du roi des détectives semblait avoir vivement impressionné. Et pris de remords, il déclarait aussitôt, « Après tout, tant pis, allez, rentrez chez vous tel que vous êtes. » C'est encore la meilleure solution. Madurek, allez vite chercher un taxi. Tandis que l'agent se précipitait au dehors, Chantecoq disait au magistrat, « Mon cher commissaire, je vous remercie infiniment de votre courtoisie. Et je n'ajouterai qu'un mot. Si j'ai réussi à vous gagner à mes idées, je regretterai beaucoup moins d'avoir manqué ce soir mes deux coquins. » D'autant plus, reprenait M. Pétirat avec amabilité, que je suis convaincu que, si vous voulez vous en donner la peine, ils n'iront pas bien loin. Mais c'est égal, je n'aurais pas été fâché de connaître leur nom. Votre parole d'honneur, que ce que je vais vous confier restera entre nous? Vous l'avez? Chantecoq se pencha à l'oreille du commissaire et lui murmura quelques paroles. M. Bétira eut un sursaut, puis il proféra « Comment vous croyez que cette femme ?»« Mais j'en suis certain. »« Oh, par exemple !»« Quant à l'homme, c'est une autre affaire, mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour un bandit amateur, il a autant l'audace qu'un professionnel. »« Monsieur Chantecoq !» affirmait le magistrat littéralement époustouflé. « Oh, si ce n'était pas vous qui me parliez, je dirais que vous êtes embarqué dans une bien périlleuse aventure. Enfin, vous savez ce que vous faites et surtout ce que vous voulez. »« Je crois, en effet, souriait Chantecoq, que je suis assez grand pour sortir sans ma bonne. » L'agent Madurek revenait annonçant. « Le taxi est en bas, monsieur le commissaire. »« Alors, déclarait Chantecoq, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Vous ne m'en voulez pas trop ? Interrogeait M. Bétirat. Ben, vous avez fait votre devoir, répliqua le limier. À mon tour de remplir le mien. Le commissaire lui serra la main, ainsi qu'à Bellegarde, et les reconduisit jusqu'au seuil de son bureau. Puis, revenant vers Méjasson, il s'écria. Ben, vous, comme ça, comme gaffe. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait ce soir une belle. Mais comment ça, monsieur le commissaire? S'exclamait le pauvre diable, qui s'attendait presque à des félicitations. Mais qu'offrait un homme tel que Chantecoq? Cependant, mais taisez-vous, je n'ai pas besoin de vos explications, qu'il pourrait manquer d'être aussi saugrenu que vous-même. Si cette histoire s'ébruite, ce n'est pas sur vous, mais sur moi que ça va retomber tout le ridicule. Oh, vous faites du beau travail, monsieur Béjasson. On voit bien que vous êtes auvergnat. Et tout en ouvrant la porte qui donnait dans son bureau, il martela. Décidément, vous ne serez jamais parisien. Et en montant dans le taxi qui stationnait devant la porte du commissariat, Chantecoq avait lancé à haute voix son adresse au chauffeur, qui, persuadé qu'il trimbalait deux agents authentiques, avait immédiatement mis sa voiture en route. Mais à peine à l'auto avait-elle couvert une centaine de mètres, que le roi des détectives, se penchant à la portière, lançait au conducteur « Prenez par la chaussée de la Muette et arrêtez-vous quand je taperai au carreau. » Le chauffeur eut un signe de tête affirmatif.
Méchant de Coq se renfonça sur les coussins. Son aventure ne semblait pas l'avoir ennuyé, au contraire. Un sourire de bonne humeur malicieuse errait sur ses lèvres, et au vif étonnement de Bellegarde, qui pourtant connaissait à fond le caractère de son beau-père, celui-ci se mit bientôt à siffloter, l'air de Malbrou s'en va en guerre, ce qui révélait de sa part une satisfaction extrême. Le reporter du Petit Parisien se disait en lui-même « Oh, décidément, mais cet homme est prodigieux !» Tout autre que lui serait furieux d'avoir été interrompu en pleine action, juste au moment où il touchait au but. Eh bien, pas du tout, il sourit, il siffle pour un rien, il chanterait. Je suis persuadé que si nous étions à pied, il serait capable d'exécuter sur place un foudroyant Charleston. Je me demande ce qu'il peut bien ruminer en ce moment. Je parierais bien n'importe quoi avec n'importe qui. Oh, qu'il a déjà su tirer parti de cet avatar. Si bien fait cependant pour l'exaspérer. Je ne serais pas autrement étonné si cette nuit déjà si agitée ne nous réservait pas de nouvelles et même plus captivantes péripéties. Si désireux Bellegarde fut-il de connaître la suite, pour rien au monde il ne se fût permis d'interroger Chantecoq, car il avait déjà été trop souvent son collaborateur pour ne pas avoir remarqué que lorsque le grand limier était en compagnie, il était inutile de le questionner puisque jamais il ne vous accordait de réponse. Non point qu'il y mît la moindre mauvaise volonté et qu'il en fît une question d'amour-propre, non, mais absorbé dans ses réflexions, il ne vous entendait pas. Il vivait exclusivement sa pensée. C'est sa pensée concentrée sur un point unique, tendue vers un but dont rien ne pouvait le détourner, l'empêchant de distinguer et de percevoir toute manifestation extérieure qui n'était pas directement liée à elle. Cette faculté si puissante et que possèdent peu de cerveaux humains était pour beaucoup dans cette extraordinaire maîtrise de lui-même qui, en conservant sa force, permettait à cet autre don personnel dont la nature l'avait gratifié, c'est-à-dire un flair extraordinaire, de s'exercer sans distraction et dans la plénitude absolue de son raisonnement et de sa volonté. Voilà pourquoi Bellegarde respectait si scrupuleusement ses silences. Chantecoq frappait à l'une des vitres avant de l'auto. Le chauffeur ralentit et stoppa, chaussée de la muette, presque à l'endroit où le détective et son gendre, une heure auparavant, avaient été interpellés par Méjasson. « Bon, inutile de descendre, » fit le limier. Il regarda au dehors. « L'auto n'est plus là, » constata-t-il. « Je m'y attendais. C'est parfait. » Puis se tournant vers son gendre, il ajouta « Dites-moi, Jacques, placé comme vous l'êtes, vous devez apercevoir beaucoup mieux que moi l'hôtel de Rascolini. Oui, en effet. La fenêtre où nous avons vu se profiler tout à l'heure la princesse et l'homme masqué, est-elle toujours éclairée ? Oui, toujours. Ah ah ! Et j'aperçois également les mêmes ombres. Celles de nos oiseaux ? Oui, parfaitement. Oh, 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 vous en êtes bien sûr? Oui, absolument. Oh, cela devient grave, attendez un peu. Nous allons changer de numéro. Le mieux est que je descende d'abord et puis vous, allons-y. Ils exécutèrent la manœuvre. Dès qu'il se trouva assis à la place qu'occupait son gendre, Chantecoq prit dans l'une de ses poches une petite baguette et une petite lorgnette qu'il pointa à travers la portière dans la direction de la fenêtre éclairée. Et après quelques secondes d'examen, il replaça tranquillement la lorgnette dans sa poche tout en murmurant « Parbleu, je ne m'étais pas trompé !»
Notre coupe de bandits a bel et bien filé pendant que nous étions au commissariat. Mais alors, quels sont ces gens qui les remplacent d'une façon tellement exacte que j'aurais juré que c'était eux? Vous l'avez pas deviné? Lançait le roi des détectives. Ah, attendez donc. Ah oui, Marco, le maître d'hôtel. Et la femme de chambre, Suzanne. Spontanément, le journaliste déclarait. Oh, jamais je ne les aurais repérés. Le fait est, appuyait Chantecoq, qu'ils sont fort bien camouflés. Seulement voilà, ils ont dû faire vite et ils ont commis une erreur qui les a trahis. Ah, puis-je vous demander laquelle? Mais le véritable homme masqué avait la joue et l'œil droit à découvert. Et celui-ci, c'est le contraire. Ce qui prouve qu'après nous avoir repérés et réussi à nous éloigner en téléphonant au commissariat, la belle Imperia et son mystérieux complice, convaincus avec raison qu'aussitôt libérés nous reviendrions rôder sous leurs fenêtres, ont voulu nous donner le change et nous faire croire qu'ils étaient toujours là, qu'en ce moment ils filent à toute allure sur la route de X, Y ou Z. Oh, nous n'avons plus qu'à rentrer tranquillement chez nous. Demain matin, il fera jour et tout marchera comme sur des roulettes. Et d'une voix joyeuse, il lança au chauffeur. Maintenant, avenue de Verzy. Et tandis que le taxi se mettait en route, il se mit non plus à siffler, mais à chantonner l'air de Marlborough, ce qui révélait de sa part la plus vive allégresse. Melgarde se disait, oh, il m'a stupéfié bien des fois. Mais pas autant que ce soir. Somme toute, il vient d'essayer un échec et jamais je ne l'ai vu aussi joyeux, aussi triomphant, aussi plein de confiance en tout aussi bien qu'en lui-même. Et tout à coup, il se sentit secoué par le bras. « Eh bien, mon cher Jacques, s'écriait Chantecoq, vous ne dites rien. Est-ce que par hasard vous auriez le cafard ?» « Non, pas du tout, mon cher beau-père, » ripostait le reporter. « Je croyais que vous travailliez, et je m'en serais voulu de vous interrompre. Je reconnais bien là votre discrétion habituelle, mon bon ami, et croyez que j'y suis très sensible. Mais j'estime qu'on voilà assez pour aujourd'hui, et que l'heure du repos a sonné. » Et une lueur de malice dans le regard, il ajouta, « Je crois que nous l'avons bien gagné et que nous allons pouvoir dormir en paix sur nos lauriers. »« Sur nos lauriers ?» ne put s'empêcher de murmurer Bellegarde. « Parfaitement, » appuyait Chantecoq. « Mon optimisme vous déroute, n'est-ce pas ? » « C'est-à-dire que... »« Alors avouez-le, vous en voudrez pas. » Le mari de Colette s'écriait. « Ben, je vous répondrai oui. » Si avec un homme tel que vous, il ne fallait pas s'attendre à tout et au-delà. À la bonne heure. Vous venez, mon cher Jacques, de poser la question sur son vrai terrain. Maintenant, voulez-vous que je vous fasse en cinq secs la critique de nos opérations, ou plutôt que je vous répète celle auxquelles vous vous êtes déjà livré en vous-même? Oh, mais mon cher beau-père, croyez que... Ah, ça vous figurez que je vais me formaliser? Parce que vous vous dites que j'ai commis une imprudence en nous transformant tous les deux en agents. L'imprudence qui nous a fait arrêter et a permis ainsi à nos clients de nous brûler la politesse. Eh bien, pas du tout. Je vous répondrai seulement que nous n'avions pas l'embarras du choix et qu'il était encore plus aléatoire de nous déguiser en joueurs d'orgue de barbarie, en mendigots, en camelots, etc., etc. Ce n'était pas la première fois que j'endossais un uniforme de flic, et jamais encore il m'était arrivé le moindre ennui. Ce soir, ça a été le bec, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Est-ce que vous vous figurez que je n'avais pas prévu cette éventualité, ainsi que ses conséquences? Résultat, l'adversaire est battu, puisqu'il est en fuite. Le poursuivre avec ce taxi. Un match entre un escargot et une hirondelle. Mais qu'il parte, au contraire. C'est superbe, c'est magnifique. Ne laisse-t-il pas les deux otages de qualité? Marco et la femme de chambre qui, eux, ce ne serait que pour expliquer la disparition de leur maîtresse et de son amant, vont demeurer là, au moins, jusqu'après les obsèques du prince. Oh, alors, cela, je me charge de les cuisiner en 5 secs et d'obtenir d'eux l'adresse de leur chère patronne, que nous irons alors cueillir en douce et que nous ramènerons non moins discrètement, non pas à Paris, mais à Marseille, ainsi que son homme masqué. Oh, vous voyez d'ici la tête du juge d'instruction Ribécourt. Oh, mon ami, quelle bouillabaisse d'honneur nous dégusterons ce jour-là, accompagné d'une bonne bouteille de ce vin exquis de Cavalère, qui nous met si bien le cœur au soleil et le cerveau en fête. Mais vous êtes tout simplement merveilleux, admirait Bellegarde. Mais non, affirmait modestement Chantecoq. Je connais mon métier et je l'aime. Voilà mon secret. Et puis, voyez-vous, il faut toujours partir de ce principe que les obstacles et la difficulté sont les meilleurs garants de la victoire. En effet, ils nous forcent à réfléchir, à tirer parti de tout, y compris des erreurs dont nul n'est exempt, à profiter des moindres circonstances et surtout à ne jamais se décourager ni à se laisser surprendre. Le taxi s'arrêtait. Ils étaient arrivés avenue de Verzy. Chantecoq régla le chauffeur et pénétra dans la maison avec Bellegarde. Tout était calme et silencieux. Ils gagnèrent le laboratoire afin de se débarrasser de leur défroque d'agent. Bellegarde allait regagner la chambre qu'il occupait chaque fois que, seul ou avec sa femme, il passait la nuit chez son beau-père. Lorsque, dans le silence, vibra l'appel du téléphone. Tous deux s'enfuirent dans cette pièce. Chantecoq saisit l'appareil et écouta. Aussitôt, il fit, en tendant le second écouteur à son gendre. « C'est Colette qui nous téléphone !» La voix de la jeune femme lançait dans l'appareil. « Venez vite tous les deux. Il vient de se passer ici des choses que je ne peux pas vous expliquer par téléphone, mais elles sont assez graves pour nécessiter votre présence immédiate. Oh, n'ayez aucune inquiétude pour moi, ni pour elle. Tout va bien, mais quelle alerte !» Chantecoq répliquait. « Nous serons là dans une demi-heure. » Bellegarde dessinait. Oh, « Je vais chercher ma voiture que j'ai laissée au garage. »« Oui, c'est ça. Pendant ce temps, je vais rédiger une note pour Météor et Gautret. » La consigne est changée. Il est inutile qu'il s'en aille demain matin à 6 heures au chaussée de la Muette, puisque nous n'y serons pas. « Je vous attends à avenue des Ternes, » disait Bellegarde. « C'est cela. J'y serai dans 10 minutes. Moi aussi. » Le reporter s'élança au dehors. Tout en s'installant à sa table et en s'armant de son stylo, Chantecoq murmura. « Pour que Colette m'ait téléphoné ainsi, il faut qu'il y ait eu là-bas un sérieux grabuge. » Bon, inutile d'ailleurs de me creuser les méninges, puisque je m'en vais être fixé tout à l'heure. Mais je ne serais pas autrement surpris si la Rascolini et son mystérieux amant avaient été déposés là-bas à leur carte de visite. »